D'accord, c'est parti. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo
Namo
Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya.
Om Namo
Om
Bhagavate
Namo
Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki
Jai.
jai. Alors voilà, on est à la page 161, le point 17.3. Ananda, est-ce que tu voudrais lire?
Oui, avec plaisir. Ah, parfait. J'y suis arrivée. Je grandis la page. Ok, c'est bon. Hare Krishna. 17.3. Ce n'est pas pour signifier qu'il est le maître de sa famille, de sa communauté ou de sa nation, mais bien de ses propres sens. Un homme réfléchi est intelligent à l'intérieur. Il fait preuve de discernement en ce qui est acceptable et non acceptable. Son jugement est fondé sur la satisfaction de Guru et Krishna. Dans ce cas-là, la conscience de Krishna est très simple. Suivre les instructions du maître spirituel afin de plaire à Krishna. Plaire à Krishna signifie, pardon. Plaire à Krishna simplifie toute obligation externe, telle qu'envers la famille, la communauté, la nation. Simplifier ne veut pas dire zéro relation ou obligation. Simplifier veut bien dire ce que ça veut dire. Pas besoin de faire un dessin. Ça veut dire qu'un dévot, chef de famille, remplit ses obligations en fonction de la conscience de Krishna. Par exemple, élever des enfants pour qu'ils deviennent conscients de Krishna. Ça prend du temps à faire cela. La tâche est par beaucoup simplifiée quand l'atmosphère familiale se prête au développement de la conscience de Krishna. Par exemple, imaginez une famille de dévots où faire des bhajans ou des kirtans sont de fréquentes activités appréciées de tous les membres de la famille. La famille vit alors dans une atmosphère à l'épreuve des influences pernicieuses du Kali Yuga. Raison? Pour cause de goût supérieur. Cependant, on peut bénéficier d'une atmosphère consciente de Krishna et tout de même tomber. On trouve le verset suivant du Srimad Bhagavatam 1.5.17, lequel est très instructif. Tyaktva dharmam karanam nambujam arer, bhajan apagvo tapatet tato yadi, yatragva va badram abu amyushya kim kovarta apto bhajatam sva dharmata. Tyaktva, avoir abandonné, sva dharmam, son propre engagement vocationnel, karana
Tcha,
ambujam,
tcha, pas ka,
pardon, excusez.
tcha.
Ah, j'ai mal aux yeux. Charanam ambujam, les pieds pareils au lotus. Hare de Hari, le Seigneur, Bhajan dans le cadre du service de dévotion, Apakva immature, Ata pour ce qui est d'eux, Patet tombe, Tata de cet endroit, Yadi si, Yatra lorsque, va quelque sorte de, va où, utilisé de façon sarcastique, Abradram défavorable, Abud se produira, Amushia de lui, Kim rien, Kaya va, désolé j'ai mal aux yeux, Ka va alta quel intérêt, Apta obtenu, Abhajatam du nom dévot, Svadharmata être engagé dans un service vocationnel. L'être qui a mis un terme à ses occupations matérielles pour suivre la voie dévotionnelle et servir les pieds pareils au lotus du Seigneur, certes ne risque en rien l'infortune, même si, encore immature, il lui arrive de déchoir. La bhakta, au contraire, mena-t-il à la perfection ses devoirs dans la matière, ne réalise aucun gain. Teneur et portée. D'innombrables devoirs échoient à l'homme. Devoirs envers les parents, les proches, la société, le pays, l'humanité, les autres êtres, les devas, mais également envers les grands philosophes, les poètes, les hommes de science, etc. Les Écritures enseignent toutefois qu'on peut les délaisser tous pour s'abandonner au service du Seigneur. Si donc l'on agit ainsi et qu'on obtient le succès dans la pratique du service de dévotion, tout est bien. Mais il arrive parfois qu'on s'abandonne au service du Seigneur poussé par quelques sentiments éphémères et qu'au bout d'un certain temps, on choisit du sentier dévotionnel pour une raison ou pour une autre, le plus souvent à cause de relations indésirables. Et nous en avons tellement d'exemples, celui de Bharata Maharaj, entre autres, qui pour s'être trop attaché à un faon, dut renaître lui-même sous la forme d'un faon. Au moment de mourir, il pensait à ce faon et dut ainsi renaître faon. C'est comme ça qu'on dit, oui.
Ouais.
Ok, parfait, désolé. Il put toutefois se souvenir de sa vie passée, donc des causes de sa chute. De même, Chitraketu se vit déchoir en raison de ses offenses aux pieds de Shiva. Mais quoi qu'il en soit, l'insistance de ce verset porte sur l'abandon aux pieds parés au lotus du Seigneur, malgré la possibilité d'une chute éventuelle. Car même si l'on en vient par la suite à négliger nos devoirs dévotionnels, jamais nous n'oublierons les pieds pareils au lotus du Seigneur. Une fois engagés dans le service du Seigneur, nous continuerons toujours de le servir en toutes circonstances. La Bhagavad Gita enseigne que le moindre pas effectué dans cette voie peut nous sauver des conditions les plus redoutables. Un autre exemple encore, celui d'Ajamila. Il avait vécu une enfance de bhakta, mais se dégrada au cours de sa jeunesse. Il n'en fut pas moins sauvé par le Seigneur à la fin de son existence. On connaît l'expression dans la société de filet social afin d'assurer un certain minimum de confort aux gens qui se ramassent au bas de l'échelle. Mais le filet social spirituel est toujours disponible et s'avère le même inconditionnellement pour tout le monde, c'est-à-dire les pieds parés au lotus du Seigneur qu'un dévot ne peut jamais oublier tel qu'il est dit dans la teneur reportée ci-haut.
Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Omagana Tinandesya Granjana Sadakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bon, ben là, on parle, au début, on parle, ce n'est pas pour signifier qu'il est maître de sa famille, de sa communauté ou de sa nation, mais bien de ses propres sens. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de quelqu'un qui est un swami ou un goswami. On parlait au 17.2, bon, on parle des deux, là. Swami signifie maître et Goswami, maître des sens. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de devenir maître de ses sens? La question est posée.
Il y a une façon qui marche, les autres, c'est pas des sûretés.
Donc c'est non, ta réponse. Il n'y a qu'une seule façon qui marche.
Exactement. C'est pas,
c'est moi, j'allais dire aussi.
La réponse est au singulier, voilà. Et non au pluriel. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas au pluriel?
Parce que les autres façons, c'est incomplet. Parce qu'il n'y a pas Krishna dedans, en fait. Ou partiellement peut-être, mais parce que c'est pas tourné vers vers la dévotion au Seigneur, donc.
Mais si c'est un, s'il y a une façon, il peut pas avoir deux façons. S'il y a une façon, on va dire, c'est se donner à Krishna complètement, dans la pensée, dans tous les gestes, mettre la famille dans, avec la conscience de Krishna, servir son maître spirituel, lire les lectures, c'est toujours un, c'est toujours Krishna, il n'y a rien d'autre pour arriver à ce point-là.
Exactement. Et la réponse pour expliquer tout ça, pourquoi?
Ben, c'est si on veut sortir de l'illusion de ce monde temporaire, c'est la seule corde ou les escaliers pour en sortir. C'est la porte de sortie. Contrôler, c'est ça. Sans contrôler ça, on contrôle pas grand-chose.
D'accord. Mais si quelqu'un vous dit, bon, ben vous affirmez qu'il y a juste une façon de maîtriser les sens, mais il faut trouver une raison, là.
Je comprends pas la raison, c'est quoi, c'est la raison.
Mais pourquoi qu'il faut maîtriser les sens, qu'il faut maîtriser ses sens?
Parce que c'est qu'est-ce qui nous accroche encore dans le monde matériel, c'est les sens, les plaisirs sensoriels.
Ça, c'est un côté de la médaille. Il y a un autre côté. La raison profonde et immuable, la vraie raison, même si, moi, c'est ça. Il y a juste une raison. C'est parce que nos sens appartiennent à Krishna.
Oui.
C'est aussi simple que ça, là. Alors, l'analogie est donnée de la main qui coopère avec le restant du corps. Alors, la main donne la nourriture à l'estomac. Quand l'estomac est nourri, la main est nourrie automatiquement aussi. Alors, parce que nos sens appartiennent à Krishna, tant et aussi longtemps que ces sens-là ne sont pas vraiment engagés au service de Krishna, c'est comme mystère et boule de gomme. Alors, mystère et boule de gomme, dans ce contexte-là, ça veut dire, j'ai tout essayé. Et c'est ça qu'on a fait depuis qu'on est dans le monde matériel. Veux, veux pas, on a passé à travers la gamme des 8 400 000 espèces de vie. Là, on vient dans une forme humaine de vie qui est très rare, qui est une opportunité inouïe de retrouver sa relation oubliée d'avec Krishna. Alors, on a beau essayer. Et ça, on le voit dans la vie de tous les jours. Alors, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui essayent de servir leur sens, mais qui sont pas satisfaits. Alors, donnons des exemples.
Ben, ils travaillent toute la semaine pour avoir de l'argent. Ils prennent l'argent, ils achètent le plaisir de leur sens. Mais rendu après la fin de semaine, ça, il n'y a plus le même goût. Alors, il faut recommencer encore, travailler, mettre de l'argent de côté pour acheter d'autres plaisirs d'essence. Que ce soit, veut dire, aller au cinéma, manger au restaurant, acheter une voiture. C'est tout des plaisirs du sens, mais ça dure pas. C'est dans le monde temporaire, tout ça.
D'accord. D'autres exemples de personnes qui ne sont pas matérialistes.
Les personnes, les bouddhistes, sont pas matérialistes, normalement.
Ouais. À part les bouddhistes, qui est-ce qu'il y a dans la même famille?
La même famille des bouddhistes?
Ouais. Est-ce qu'ils ont de la parenté, eux autres?
Ben, dépendant de ce qu'il est rendu avec son mouvement bouddhiste dans sa tête, et les bouddhistes, des fois, ils s'en vont loin, là. Ils ont de la parenté, mais...
La parenté spirituelle.
Ah oui.
Qu'on appelle?
Les dévots.
Non, pas les dévots. Les Mayavadis.
Ah oui.
Les impersonnalistes. Tout ça, c'est dans la même famille. Alors, ils recherchent de se fondre dans le Brahman. Ça peut être dit dans une certaine forme ou, disons, ressasser dans une autre forme, mais c'est le but est le même, se fondre dans le Brahman. Alors, ça, ce n'est pas satisfaisant. Et ça, c'est intéressant de poser la question. Alors, s'ils se fondent dans le Brahman, pourquoi ils ne peuvent pas être satisfaits?
Mais ils ont perdu leur identité, il n'y a plus de... L'identité s'est fondue, je dirais, comme... T'es dans le néant,
Oui, mais
c'est comme
dans le néant,
distant.
qu'est-ce qui se passe dans le néant?
Pas grand-chose. Ben, je sais pas,
À
là.
ce qui concerne leur sens.
Mais ils ont plus de sens. Il n'y a plus de
Ils ont des
gratification.
sens. Ils ont des
Même dans le néant.
sens. Ils ont, l'âme a toujours des sens. Mais c'est juste que c'est nié. Ils ne veulent pas. Le problème, c'est que quand ils sont dans le Brahman, ils n'ont pas d'engagement pour leur sens. Alors, ils n'ont pas d'engagement dans le service de dévotion. Lui, Krishna, il dit, là, si vous sortez du monde matériel, la prochaine étape, ça devrait être me servir. Mais si vous sortez pas à 100%, vous êtes juste comme sur le bord du monde spirituel, mais vous n'êtes pas engagé. Vous n'avez pas envie, et vous n'avez même pas envie de connaître non plus Dieu, la personne suprême, en tant que personne. Alors, il y a un problème parce que les sens, pour les Mayavadis, pour les bouddhistes, les sens, c'est un problème. C'est comme un obstacle disons, à leur réalisation spirituelle. Donc, je suis une âme, je suis un brahman, je ne suis pas ce corps. Mais c'est correct. Mais il n'y a pas de problème si tu sais quoi faire avec ce corps-là. Tu as besoin d'un corps pour vivre. Alors, parce ils n'ont pas d'engagement dans le service de dévotion, ils doivent chuter de l'atmosphère spirituelle du Brahma Jyoti. Ils ne peuvent pas rester là. Alors, c'est comme Krishna, les met dans une position. OK, va apprendre tes leçons, là, puis on se reverra une autre fois. Alors, apprendre ses leçons, c'est quoi la leçon que Krishna veut qu'il apprenne?
Que on est né pour le servir. Dire, on n'est pas né, on est pour le servir.
D'accord, ça c'est bien dit. Mais disons, si on dit, OK, on prend la Bhagavad Gita, là, puis on cherche qu'est-ce que Krishna veut qu'on arrive à. Où est-ce que Krishna veut qu'on arrive à?
À s'abandonner à sa volonté.
D'accord. Pensez pas à Bhagavad Gita 18-66, là. Pas ce verset-là. Ce verset-là est bon. 18-66, c'est bon. En fait, c'est la crème de la crème. Mais il y a un autre verset où Krishna explique quand quelqu'un a la connaissance, qu'est-ce qu'il fait?
Il la partage.
Oui, mais disons qu'avant de partager avec les autres, il devrait l'appliquer lui-même, non?
Ouais.
Bon. Alors, chapitre 7, verset 19. Alors, Krishna dit, après de nombreuses morts et renaissances, l'homme au vrai savoir s'abandonne à moi parce qu'il sait que je suis la cause de toutes les causes et tout ce qui est. Une si grande âme est infiniment rare. Alors, c'est dans la teneur portée, tu le prends pas, je vais pas toute la lire, là, mais juste la première phrase, mettons. Après de nombreuses vies, l'homme vient à la pratique du service de dévotion et de rites spirituels grâce auxquels il atteint la connaissance transcendantale pure et voit Dieu, la personne suprême, comme le but ultime de la réalisation spirituelle. Alors là, Prabhupada, il parle des néophytes en matière de spiritualité, qui eux autres, c'est le Brahman. Et après, le Paramatma, mais plus haut que ça, c'est Bhagavan, Dieu, la personne suprême, Krishna. Alors, et comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, nulle vérité ne m'est supérieure. Alors, il n'y a pas plus haute vérité que Krishna, ou être conscient de Krishna. Alors, comme Krishna dit ici, après de nombreuses morts et renaissances, l'homme au vrai savoir s'abandonne à moi parce qu'il sait que je suis la cause de toutes les causes et tout ce qui est. Une si grande âme est infiniment rare. Ça, c'est la perfection de la connaissance. S'abandonner à Krishna en toute connaissance de cause. Alors, ça, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des... Oui, questions,
alors,
commentaires?
S'abandonner à Krishna, c'est vraiment... On n'est plus dans le monde de dualité. Ça veut dire qu'on ne juge plus personne. On ne juge à rien. On contemple seulement. On est dans le neutre.
Non, on n'est pas dans le neutre.
Dans le neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien-mal. C'est la volonté de Dieu. Hein. On est complètement son esclave à sa volonté.
Ça, c'est correct, mais il n'y a pas de neutre, dans le sens que, idéalement, parce que c'est pas ça qui se passe tous les jours pour un dévot qui est, disons, qui n'est pas 100% conscient de Krishna, et quand on dit ça, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, parce que ça prend du temps, justement, à arriver à une pleine conscience de Krishna, là. C'est étape par étape, puis ça prend du temps. Mais disons que l'idéal, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a rien qui soit sans relation avec Krishna. C'est ça le problème. Quand on dit là, quelqu'un est dans Maya, et à commencer par soi-même, à se regarder aller. Est-ce que je pense à Krishna 24 heures par jour? Point d'interrogation. Alors, je vais penser à Krishna. Oui, je chante avec Krishna. J'ai un programme spirituel. Ça, c'est correct. Pas de problème. Mais mettons que tu es dans la rue. Le programme spirituel est fini. Tu regardes par la fenêtre. Puis là, tu regardes qu'est-ce que tu peux bien regarder. Mais tu fais pas le lien avec Krishna. Alors, c'est quoi? Il y a un problème, là. C'est que d'un côté, tu veux être conscient de Krishna, tu chantes avec Krishna, patati patata, tout. Mais quand tu, mettons que tu as oublié de chanter avec Krishna, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, en haut, en bas, partout. Puis d'un coup, tu vois quelque chose, mais sans relation avec Krishna. À ce moment-là, t'es dans?
Maya.
T'es dans Maya. Parce que Maya, ça veut dire oublier Krishna. L'illusion. L'illusion, c'est qu'il y a quelque chose qui est perçu comme sans relation avec Krishna. Mais en fait, il n'y a rien qui n'a pas de relation avec Krishna. Tout a une relation avec Krishna. Alors, disons, analysons un petit peu qu'est-ce que ça veut dire être un yogi.
Contrôler ses sens, ses yogis un peu.
D'accord. OK, contrôle ses sens. Ça, c'est un point. Mais les caractéristiques d'un yogi, il y a disons, à part ça, là, il y a d'autres choses. Alors, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, les yogis, qu'est-ce qu'ils voient?
La forme de Krishna, c'est le Paramatma?
Oui, ils voient le Paramatma. Ils voient le Paramatma dans leur cœur. Ça, c'est une chose. Alors, ça aide pas à peu près, là. Et si tu vois Krishna dans ton cœur, je m'excuse, là, c'est dur à oublier Krishna, là. Mais c'est pas la majorité qui sont des yogis comme ça, là. Mais disons que un petit yogi, là, tu sais, un petit yogi ordinaire, qu'est-ce qu'il devrait voir? Ou qu'est-ce qu'il est supposé voir? D'après, mettons, la Bhagavad Gita.
Il voit Krishna partout.
Oui, il voit Krishna partout. Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pour celui qui me voit partout, je ne suis jamais oublié. Il y a un autre verset là, qui m'échappe.
Mais même dans les choses qui sont pas belles et mauvaises.
Exactement. Pourquoi pas?
Mais dans le fond, ça c'est le monde de dualité. Quand on voit quelque chose de beau ou laid, c'est là, on est dans le monde du jugement. Parce que tout est parfaitement la volonté de Krishna telle que ça se présente.
Pour oui, nous, c'est pas volonté, la volonté de Krishna. Il y a un numéro 2 en quelque part qui fait qu'est-ce qu'il veut bien vouloir faire avec la volonté de Krishna. Alors, comme par exemple, si le numéro 2 qu'on va dire qui est synonyme de l'âme conditionnée, elle a toutes sortes de choses qui passent dans la tête quand elle est dans Maya. En fait, elle est sous la gouverne de Maya. Tant que quelqu'un n'est pas conscient de Krishna, est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il devrait faire ou ne devrait pas faire?
Non.
Absolument pas. Il est dans Maya, là. Alors, pour cette personne-là, la satisfaction des sens, c'est quelque chose d'important ou c'est quelque chose de perçu comme ça vaut la peine. Tu sais, supposons, là, on donne un exemple, OK? On donne un exemple. Tout le monde connaît Walmart. La grande surface de Walmart, là. Ou mettons à la française les carrefours ou les mammouths de ce monde. Alors, si un bon jour, la grande surface, elle dit, venez, venez tout le monde, on donne des hot dogs à tout le monde gratuit. Tu vas en avoir une centaine, 200, 300 qui vont venir se pointer et qui vont prendre les hot dogs gratuits de la grande surface. Ils se posent pas de questions. Quel karma ils vont avoir pour ça? Ça leur traverse pas l'esprit. Mais il y a un karma pour ça. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de karma. Alors, la vie matérielle, c'est comme ça. C'est que tu sais pas qu'est-ce que tu devrais faire ou ne devrais pas faire. T'as pas de guide. T'es laissé. C'est comme le bateau sans gouvernail, là. La chaloupe sans gouvernail. Tu sais, le bateau a coulé, là, puis là, t'es dans la chaloupe qui était en cas de secours. Et là, le gouvernail, il a pris le bord. Alors là, t'as de l'air fin, là. Tu peux même pas te diriger nulle part parce que t'as pas de gouvernail. Alors, ça prend un gouvernail. Et le gouvernail, c'est quoi?
Le maître spirituel.
Exactement. Le maître spirituel agit comme le gouvernail. Et c'est lui qui dit, OK, va à gauche, va à droite, va pas à telle place, va à telle place, etc., etc. La vie prend du sens. Et sans un maître spirituel, wow! C'est pas drôle, là. Ça prend la discipline. La discipline est donnée, inspirée, enseignée par un maître spirituel. Alors, comme on a dit au début de la lecture, un homme réfléchi est intelligent à l'intérieur. Il fait preuve de discernement en ce qui est acceptable et non acceptable. Son jugement est fondé sur la satisfaction de Guru et Krishna. Dans ce cas-là, la conscience de Krishna est très simple. Suivre les instructions du maître spirituel afin de plaire à Krishna. Plaire à Krishna simplifie toute obligation externe telle qu'envers la famille, la communauté, la nation. Simplifier ne veut pas dire zéro relation ou obligation. Simplifier veut bien dire ce que ça veut dire. Pas besoin de faire un dessin. Ça veut dire qu'un dévot, chef de famille, remplit ses obligations en fonction de la conscience de Krishna. Etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Juste une petite question. Krishna, c'est la conscience. Parce que dans le Bhagavad Gita, le but, c'est le mouvement, c'est la conscience de Krishna. Ça veut dire être conscient de Krishna. Dans le fond, c'est d'être peut-être si je me trompe, là, mais c'est d'être conscient qu'on est son énergie de conscience. Je sais pas, je veux pas le mettre sur un côté en pensant supérieur, rien, là. On est sa conscience qui vit à travers, mais qui vit, qui existe dans tout de qu'est-ce qui est. C'est, on est dans une conscience. Alors, la conscience, parce que juste pour, ça n'a rien à rapport, mais quand j'ai eu mon accident, j'étais dans le coma pendant 2 semaines.
Ouais.
Et dans le coma, et je me rappelle à des moments où j'étais conscient que j'étais dans quelque chose. Je pensais pas mon corps, tout. Mais je voyais pas de corps. J'étais conscient des petites choses. J'étais dans un autre monde, mais comme conscience. C'était capotant un peu, là. Mais c'était comme, wow. Alors, si on est dans la conscience de Krishna, on devrait être conscient que l'énergie qu'on voit matérielle, c'est l'énergie de son monde matériel, de l'énergie matérielle, qui est conscience à basse fréquence. C'est toute la lumière. C'est ça, un peu, on va dire, toute est lumière, qui est à réduction de sa vitesse. Alors, on vit dans sa conscience. C'est juste en prendre conscience. C'est un peu complexe, mais.
Le point, c'est on est, comme Krishna explique dans le Bhagavad Gita, l'âme est immuable, inchangeable, existe pour toujours, et elle ne meurt pas quand le corps meurt. C'est dans le Bhagavad Gita. Et Krishna, lui aussi, il est comme ça. Mais la différence entre l'être vivant et Krishna, c'est que Krishna, lui, sa conscience, elle est à l'infini. Il est présent dans tout. Il est présent dans chaque atome et même, Prabhupada dit, entre les atomes. Ça, c'est Krishna. Mais nous, notre conscience est limitée. Elle est limitée à ce corps. Alors, on a deux corps qui recouvrent, nous recouvrent, le corps grossier et le corps subtil, fait d'intelligence mentale, faux ego. C'est le corps subtil. Et quand l'âme conditionnée devient libérée, ces deux couvertures-là disparaissent. L'âme reprend son corps spirituel où elle n'est plus recouverte par la matière subtile ou la matière grossière. Alors, elle s'engage au service de Krishna. Et ça prend la grâce de Krishna pour, disons, si on peut dire entre guillemets, traverser l'autre bord. Ça prend la grâce de Krishna. Alors, Krishna est appelé Mukunda, c'est celui qui accorde la libération. On n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant de Krishna. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour plaire à Krishna? Ben, s'abandonner aux instructions de son représentant et dans le but de satisfaire Krishna. C'est pas vraiment compliqué. Alors, une des caractéristiques d'un brahmana, c'est la simplicité. Alors, la simplicité, Prabhupada explique dans la Bhagavad Gita qu'est-ce que ça veut dire, la simplicité. C'est un petit peu surprenant parce qu'on a une certaine notion, mais dans la teneur reportée, où Prabhupada explique la simplicité, c'est comme il donne une autre tournure, une tournure qui fait du sens. Alors, Prabhupada dit, la simplicité, c'est de dire la vérité même à un ennemi. Ça, c'est la simplicité. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ça veut dire que tu marches droit et tu restes droit tout le long. Alors, s'il arrive qu'il faut que tu dises la vérité à un ennemi, ben, so be it. Que ça se passera comme ça. Avec les conséquences que ça aura. Alors, il y avait dans le Mahabharata, Maharaj Yudhisthira, la bataille de Kurukshetra, Maharaj Yudhisthira, il y avait Dronacharya. Dronacharya était le maître d'armes d'Arjuna. Et Dronacharya avait eu comme une bénédiction qu'il ne mourrait pas, mais à une condition qu'il allait mourir. Qu'il soit dans un état de lamentation. Alors, Krishna, il dit à Yudhisthira, il dit, dis ou crie pour que Dronacharya entende que son fils est mort. Et Maharaj Yudhisthira, qui voulait être vertueux, 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 il hésitait à suivre cette instruction directe de Krishna parce qu'il ne voulait pas dire un mensonge. Alors Krishna dit à Yudhisthira, OK, dit que Ashwatthama, un son plus bas, Ashwatthama l'éléphant est mort. Et Dronacharya, lui, il a accroché sur Ashwatthama est mort. Mais ce que Yudhisthira a dit, c'est Ashwatthama l'éléphant est mort. Il a manqué le petit bout, là, l'éléphant est mort. Alors, il pensait que son fils était mort. Alors là, il devait sûrement avoir beaucoup de peine, il était en lamentation. Et là, Krishna a dit, OK, tue-le. C'est le temps. Et Arjuna le fait. Et Yudhisthira, parce qu'il a hésité à suivre l'instruction de Krishna, Prabhupada explique, il a dû voir l'enfer. Parce qu'il a hésité. Mais Arjuna, lui, n'a pas hésité. Alors, Prabhupada explique, ça c'est dans une classe, hein? Moi je répète ce que Prabhupada, j'ai entendu dans une classe de Prabhupada. Alors, Prabhupada dit que même si c'est pas correct, quelque chose de pas correct est demandé par Krishna, c'est correct. Parce que ça vient de Krishna. Alors, Krishna est absolument bon. Tout ce que Krishna peut demander, ça ne peut qu'être bon. Alors, on va changer de sujet. Alors, comme tantôt, je pense que c'est Virginie qui disait ça, ou en tout cas, qui disait, ah, même les choses pas bonnes, c'est Krishna. Oui, Krishna, il nous montre qu'est-ce que peut produire l'absence de conscience de Krishna. Alors, comme par exemple, si vous avez un endroit où il y a beaucoup de monde qui se lave à cet endroit. Beaucoup de monde, là. Immanquablement, cet endroit-là devient sale. Parce que tout le monde laisse sa saleté. Immanquablement. Alors, à un moment donné, il faut que l'endroit lui-même devienne nettoyé. Puis là, après, tu peux recontinuer. Alors, supposons dans ta maison, t'as reçu 25 invités pendant une semaine et tout le monde a emprunté la salle de bain. Ben, au bout d'une semaine, là, à 25 personnes qui habitent dans la même maison, 5 personnes aient fait de ménage, là, ça va paraître. Il va y avoir des traces en quelque part que, oups, ce n'est plus comme avant. Parce que c'est ça que ça fait. Alors, quand il y a beaucoup de saleté, ben, ça devient malpropre. Et puis, c'est aussi simple que ça, là. Alors, faut faire le ménage. Alors,
Ça a du sens pour moi, tu vois. Ton explication là, ça a du sens parce que je me dis par exemple les abattoirs, la maltraitance qu'on fait aux vaches, aux animaux en général, aux petits animaux pour juste se nourrir, pour le goût du palais, pour donc une grande maîtrise des sens, pour dire ah, c'est bon de manger de l'agneau, c'est bon de manger. C'est atroce pour moi, c'est une atrocité qu'on commet et on en commet de plus en plus. Et tous les jours, il y en a de nouveaux abattoirs et de nouveaux élevages. Et j'ai du mal en fait à concevoir que c'est Krishna en fait. Mais en fait, maintenant, vu avec comme tu viens de le dire, c'est poussé pour te montrer ce que c'est un monde ou des situations sans conscience de Krishna. Ça peut aller très loin et ça peut conduire vers des choses de plus en plus abominables en fait.
Oui, mais l'idée là-dedans, c'est que l'animal, lui, comment qu'il a atterri là, que c'est lui qui va passer à l'abattoir. Comment lui, il a atterri là? C'est parce que peut-être dans une ancienne vie, c'était lui qui mangeait.
Le karma, bien sûr.
Alors, c'est un cercle vicieux comme ça, là. En Krishna, lui, si c'est ça que vous voulez, on va vous arranger ça. Alors, c'est comme à l'île Maurice. À l'île Maurice, à un moment donné, Prabhupada était en visite à l'île Maurice. Et les dévots avaient cédulé une entrevue avec le, je sais pas comment ça s'appelle, premier ministre de l'île Maurice, en tout cas le dirigeant. Puis là, il y a un dévot qui a dit à Prabhupada, que dans les nouvelles de l'île Maurice, que là, à l'île Maurice, il venait d'ouvrir un grand abattoir bien moderne. Alors, Prabhupada a décliné l'entrevue avec le premier ministre. Il a refusé de parler avec cet homme-là. Alors, ça, c'est un exemple, justement, que dans la vie matérielle, les gens ne savent pas qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon. Et souvent, dans la vie matérielle, qu'est-ce qui est pas bon pour les spiritualistes, c'est bon pour les matérialistes. Et ce qui n'est pas bon pour les matérialistes, c'est bon pour les spiritualistes. Alors, comme par exemple, se lever tôt, avant le lever du soleil, ça c'est la prescription pour les spiritualistes. Brahma Muhurta, on fait des prières, suivre un programme spirituel, avoir une vie spirituelle, avant que le soleil, disons, se lève. Mais pour les matérialistes, il n'y en a pas question, là. Tu me réveilles durant la nuit. Pour eux autres, c'est la nuit. Et pour les dévots, c'est le matin. C'est le meilleur temps du matin. C'est avant le lever du soleil pour les dévots. Alors, c'est le monde, deux mondes opposés, des valeurs opposées. Alors, c'est ça.
J'avais une question.
Oui.
Tout ce qui se passe dans l'univers c'est juste un passe-temps pour Krishna. C'est des valeurs que tout ça, nous on met sur les choses à terre, c'est juste des valeurs que la personne entangled, c'est-à-dire pognée dans ce monde matériel, va mettre dedans. Mais dans le fond, c'est juste un passe-temps pour Krishna. Tout est Krishna. Il n'y a rien d'autre que Krishna. C'est un jeu, c'est une pièce de théâtre. C'est l'écrivain, le directeur, le producteur et l'acteur. Ils s'amusent.
Ouais,
les
Krishna...
guerres, les nucléaires. Hein? Comment? Excusez.
Ouais, ouais, tout est contrôlé par sa volonté. Alors,
mais
comme
il est
c'est...
là. Il est tout ça. Il n'y a rien d'autre que lui.
Ouais, c'est juste faut savoir disons, pour un dévot, savoir dans quel camp, choisir son camp. Et le camp pour un dévot, c'est Krishna. C'est de choisir Krishna, son service de dévotion. Ça veut dire être libéré de l'emprise de l'illusion. Alors, dans le monde matériel, il n'y a jamais quoi que ce soit qui peut être présenté à l'âme conditionnée comme un bonheur permanent et de deux, un refuge permanent. Ça n'existe pas. Alors, c'est comme parfois, lorsqu'on nous présente l'histoire avec un grand H, est-ce qu'on peut arriver à une conclusion de dire, ah, oh, mais dans ce temps-là, tel temps dans le passé, là, les gens étaient vraiment heureux. Est-ce qu'on peut dire ça?
Aussi longtemps que tout le temps que l'histoire est écrite, c'était toujours du bordel sur la terre, les guerres, les drames, ça n'arrêtait pas. Jusqu'à même le Seigneur Ram, c'était déjà, ça se passait les guerres entre eux autres, le vol et ça. C'est toutes des histoires incroyables, mais c'est tout Krishna qui les a écrits, puis c'est tout lui qui les a produits, et c'est tout lui qui joue dedans. C'est vraiment du gros théâtre, c'est du vrai cinéma là, de que l'homme copie qu'est-ce que Krishna fait en faisant mettant en scène là, des vues là, des sortes de choses. C'est nous qu'on met de la valeur, que ça c'est beau, ça c'est laid, tout. Mais comment on peut mettre quelque chose de dualité dans le total divin? C'est impossible. Il n'y a pas de deux, il y a un.
Oui, mais...
Mais il reste toujours multiplié par des millions de un. Des milliards.
C'est ça. C'est, disons, être dans Maya, c'est ça que ça veut dire. Voir un paquet de choses qui n'a pas de relation avec Krishna. Est-ce que d'autres questions ou commentaires? Alors, on a parlé. Quelqu'un qui s'engage dans le service de dévotion, il n'y a rien de perdu si jamais il s'écarte de la voie. Tandis que quelqu'un peut faire ses devoirs matériels à la perfection, mais à la fin, c'est zéro. Parce que c'est tout à recommencer. Ça, c'est la vie matérielle. La vie spirituelle, c'est un gain permanent à avoir fait quelque chose pour Krishna, un service pour Krishna. OK.
Ça prend la grâce de Krishna pour penser à Krishna quand même aussi, hein? Je pense que...
Oui.
Ça, sinon...
Alors, supposons qu'il n'y ait pas de grâce de Krishna pour penser à Krishna. Est-ce que c'est Krishna le responsable?
C'est nous. On est responsable exactement où on se trouve par nos propres désirs.
D'accord, mais on peut être dans Maya tant qu'on voudra, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation avec Krishna. Alors, qu'est-ce que Krishna fait là-dedans quand on est dans Maya?
Il nous regarde.
Il nous regarde, oui. Krishna nous accompagne dans tous les corps qu'on puisse accepter. C'est dit sur le corps comparé à un arbre, il y a deux oiseaux. Il y en a un qui veut manger les fruits de l'arbre et l'autre qui regarde, il est témoin. Lui, il mange pas, lui. Il fait juste regarder. Et ça, c'est Krishna. C'est l'arbre suprême.
Mm-hmm.
Il va pas intervenir, dire, « Hey, fais pas ça, 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 parce que c'est pas bon pour toi. » Il peut nous donner une espèce d'intelligence pour justement y penser.
Oui.
Mais il va pas nous forcer.
Non, ça doit venir de nous, en fait.
Oui, il faut qu'on soit d'accord.
Sinon, c'est pas, c'est faussé le truc. C'est pas possible. C'est du 100% ou c'est pas, c'est nous 100%. C'est là où on a le libre arbitre, en fait. C'est de savoir vraiment, c'est nous qui nous engageons. Krishna, il observe, effectivement. Il observe ce qu'on fait et il nous pousse vers le haut si on décide d'aller vers le haut. Mais il nous laissera descendre vers le bas si on a décidé. Il ne nous poussera pas vers le bas. C'est nous-mêmes qui allons descendre vers le bas. Mais je pense que si on... Il est réciproque, hein, puissance 10, hein, Krishna. Donc,
ouais,
c'est s'il voit vraiment qu'on est sincère, il est réciproque et on sent ce gain au fond de soi.
Ouais. Mais c'est dit aussi, si Krishna nous aime, il nous donne tout. Et si Krishna nous aime vraiment, il nous enlève tout.
Mm-hmm. Aussi.
Alors, c'est dit que justement, quand Krishna favorise un dévot, il enlève tout ce qui pourrait faire obstacle à son progrès spirituel. Alors, des fois, ça peut même aller jusqu'à la mort d'une personne qui est un obstacle dans la vie du dévot. Alors là, est-ce que le dévot va penser « Merci Krishna ». Ah, merci.
Non.
Non.
Le dévot va pas dire merci. Il va juste accepter, ben, les événements ont tourné de telle ou telle façon, pis c'est tout. Le dévot n'a pas fait de plan, lui-là, là.
Mm-hmm.
Alors, on donne un exemple dans le Srimad Bhagavatam, dans le premier chant, cinquième chapitre, Narada Muni qui raconte son histoire. Et il dit, et sa mère avait beaucoup d'affection. Et le Bhagavatam dit, sa mère avait couvert son fils d'affection. Elle avait beaucoup d'affection pour son garçon, Narada. Alors Krishna, le Bhagavatam dit, un jour, par l'arrangement de la providence, sa mère a été mordue à la cheville par un serpent. Là, c'était la fin de sa mère. Et là, lui, c'est un petit bonhomme, est obligé de s'abandonner à Krishna. Et son histoire spéciale, là, parce que c'est un Mahajan. Alors, lui, il s'est mis à voyager, puis il a vu plein de choses, puis c'est très intéressant, le premier chant de Srimad Bhagavatam, l'histoire de Narada Muni, ce qu'il a vu, et les instructions, qui viennent avec. Ah, c'est vraiment intéressant. Alors, Krishna, des fois, il fait des arrangements. Et pour un dévot qui n'est pas, c'est dit aussi dans le Bhagavatam, un dévot qui n'est pas, mettons, très intelligent. Krishna va y arranger ça aussi pour enlever les choses, disons, qui sont superflues dans son service de dévotion. C'est l'arrangement de Krishna. Un dévot va pas se plaindre. Et même un dévot peut remercier Krishna. Merci Krishna. Vous m'avez aidé à surmonter ou à passer à travers tel attachement matériel. Parce que ce n'est pas nécessairement facile, C'est facile d'en entendre parler, disons théoriquement parlant, en ce qui concerne les attachements, mais d'être affranchi complètement des attachements, ça c'est une autre paire de manches. Alors, mais ça, on peut dire, Krishna, il voit tout, et c'est nous, disons, favorise, il va nous aider à percevoir certaines formes d'attachement, puis à nous aider à nous en débarrasser, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. OK.
Il y avait quelque chose que je voudrais partager. Moi, 20 ans passés avant mon accident, je priais Krishna qui, je savais pas comment arrêter mon travail de designer. Je faisais des bars, des restaurants dans un monde d'illusions. J'allais pas à quitter cette place-là. L'argent est bon, ça marche bien, tout ça, mais j'allais pas à quitter. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai eu l'accident. 50 ans, je pouvais pas bouger, ça m'a pris pour réhabiliter. Il te donne, il te fait, qu'est-ce que tu demandes, mais tu sais pas comment ça va arriver. Mm. Mais c'est arrivé comme j'avais pas le choix. J'avais la mémoire, tout ça, là. Alors, c'est...
Ouais, ok. Le moniteur a fait un black, mais c'est revenu, non? Peux-tu expliquer? Disons, revenez sur tes pas un petit peu.
C'est ça, je priais Krishna pour qu'il me sorte de l'espace dans lequel je travaillais qui était vraiment pas bon pour moi. C'était vraiment un espace mondain, là, total. Alors, j'ai eu l'accident qui, pendant 5 ans, je pouvais pas rien faire, je pouvais pas marcher comme il faut, j'ai perdu ma mémoire. Alors, il m'a donné le coup pour complètement effacer. J'ai pu retourner après, va dire, dans ce monde-là, là. C'était fini. Ma vie a changé complètement. Mais il donne les désirs, si tu les mérites, mais tu sais pas comment qu'il va les donner. Pendant un bout de temps, j'étais étouffé parce que j'ai une jambe plus courte maintenant. Je peux pas respirer autant que je veux. Mais c'est toutes des bonnes choses, comme vous disiez avant, Krishna, il t'aime, il t'aide. Quand il t'aime un peu plus, il t'enlève tout.
Il t'enlève tout.
Moi, je le prends sur ce côté. Il t'enlève tout.
Ouais. Alors, c'est un
des
noms.
C'est ça qui m'a rentré beaucoup plus.
Un des noms de Krishna, c'est Hari. Alors, Hari, ça veut dire celui qui enlève. C'est une signification de Hari. Celui qui enlève. En fait, il enlève tout. Alors, il enlève tout ce qui n'est pas nécessairement favorable pour le dévot. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Alors, j'aimerais qu'on continue. Le point 17.5, Virginie?
Oui, 17.4.
5.
Ah oui. 17.5.
On l'avait-tu lu, le
17.4? Non, 17.4, on l'a pas lu.
J'ai pas lu le 17.4.
OK, bon, mais 17.4.
Nul ne devrait être appelé Goswami s'il n'a maîtrisé ses sens. Aucune prétention n'est permise pour tout prétendant au titre de Goswami. C'est soit on l'est ou on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, on est un Godasha, un serviteur de ses sens. Go veut dire les sens et Dasha, serviteur, signifie serviteur. Donc, serviteur des sens. Tout le monde est Go Dasha sans la conscience de Krishna. Et nous voilà de retour à la case de départ. Le mantra 1 d'Ulupadesha Morita nous enseigne précisément ce qu'il faut savoir et agir en conséquence pour s'élever au-delà du statut de serviteur des sens. 17.5. Suivant les traces des six Goswami de Vrindavan, tout Swami ou Goswami devrait pleinement s'absorber dans le service d'amour sublime et transcendantal du Seigneur. La voie pour un Swami ou Goswami est très exigeante. Elle signifie pleinement s'absorber dans le service d'amour sublime du Seigneur. Les Swami ou Goswami sont très bien vus dans la société et il n'en demeure pas moins qu'ils ont une très grande responsabilité. celle de maître spirituel de la société. Ils doivent être un exemple eux-mêmes et enseigner, diriger les autres membres de la société, diffuser la connaissance qui peut délivrer les masses des ténèbres de l'ignorance. Pierre Kirul Namas Pamus. Les swamis et goswamis doivent régulièrement changer d'endroit et prêcher la conscience de Krishna. On dit qu'ils ne devraient pas rester plus de 3 jours au même endroit. Mais évidemment, pour cause de service offert au Seigneur, il peut arriver qu'il leur soit nécessaire de rester plus de 3 jours au même endroit. Il leur faut faire preuve de jugement en fonction de leur service. Parfois, des swamis ou goswamis sont estimés des résidents permanents d'un temple en fonction de leur service ou de leur âge, leur état de santé. En 1968, Srila Prabhupada demeura à Montréal quelques mois, le temps que son statut légal se règle aux États-Unis. Une fois réglé, il repartit. 17.6. Mais ceux qui sont esclaves de leur sens, l'ego d'achat, servent l'illusion ou la nature matérielle. C'est là leur seule occupation. Il y a 2 points de service ici. 1. Les sens et 2. La nature matérielle. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont et les sens et la nature matérielle qui leur dictent quoi faire. Les gens riches et célèbres sont souvent dégoûtés dans la vie car leurs sens n'ont pas d'engagement satisfaisant, mis à part de jouir de toutes les facilités que peut leur offrir leur fortune. Mais les sens ne sont jamais satisfaits, ils sont voraces, voilà pourquoi. Les sens dictent en fonction de désirs, de luxure et d'avidité avouée ou inavouée. Beaucoup de divorces dans leur cas. Preuve que peu importe la satisfaction des sens, ce n'est jamais assez. Où est donc le juste milieu? Vous l'aurez deviné, la satisfaction véritable passe absolument par la conscience de Krishna. 17.7. Prahlad Maharaj décrit encore le Godasha comme Adantago, mot signifiant celui dont les sens ne sont pas maîtrisés. Des sens non maîtrisés signifient non engagés dans la conscience de Krishna. 17.8. Un Adantago ne peut devenir un serviteur de Krishna. Voici le catch 22. Sans conscience de Krishna, on ne peut maîtriser ses sens. Et sans maîtrise des sens, on ne peut devenir un serviteur de Krishna. Le service de Krishna commence avec le chant des saints noms, que l'on s'y jette et l'on peut devenir un serviteur de Krishna. Tout le monde le peut, personne n'est exclu. Par la grâce des saints noms, l'on peut passer d'Adantago un jour à Swami ou Goswami un autre jour. Comme on disait, tout est question de qualification. Les paroles exactes de Prahlad Maharaj telles que les rapporte le Srimad Bhagavatam sont les suivantes.
Okay.
Ceux qui ont décidé de poursuivre leur séjour dans l'univers matériel afin d'offrir davantage de plaisir à leurs sens n'ont aucune chance de devenir conscients de Krishna, que ce soit par leurs propres efforts, par les enseignements reçus d'autrui ou par une combinaison des dieux. Leurs sens les entraînent emballés vers les plus profondes ténèbres de l'ignorance, où ils s'évertuent frénétiquement à mâcher du déjà mâché. Srimad Bhagavatam 7.5.30.
D'accord, parfait. On continue ça une prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non, c'est clair en fait. Hein. Ça, on peut pas, on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu maîtrises pas tes sens, tu n'atteins pas la conscience de Krishna et vice versa en fait.
Ouais, exactement. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire, par exemple, ben oublier Krishna puis bonsoir la visite, il n'y a plus de problème. On pourrait pas dire ça?
Ça t'amène où?
Mais non, on peut pas.
Justement, on ne peut pas parce qu'on a une relation avec Krishna.
Ben oui. Et puis, on n'est pas, on est complètement imparfait tant qu'on n'est pas conscient de Krishna, et même au début, et même sur la, donc on doit parfaire notre service, notre tout, nos austérités. C'est un combo, comme vous dites, c'est-à-dire que c'est un tout.
Oui, d'accord. Mais d'après ce que nous avons lu ou ce que l'on va étudier le prochain cours, 17.9, les sens sont très voraces. Alors même si on ne veut pas, les sens vont nous tirailler et nous entraîner dans des activités que on voudrait pas nécessairement, disons, logiquement, mais les sens sont trop forts. C'est comme c'est dit ici. Ouais. C'est pas facile de maîtriser ces sens sans la conscience de Krishna. C'est pas facile. Alors ça se voit dans la vie de tous les jours, des gens qui sont esclaves de leurs sens. Bon, il y a plein d'exemples, mais je ne vais pas donner d'exemples. Vous pourrez en trouver vous-même. C'est pas
Mais
si difficile.
pourquoi contrôler les sens si on n'a pas Krishna dans notre vie? Je vois pas le point. Krishna est pas là, on peut pas, ça sert à rien de maîtriser ses sens.
Non, c'est pas nécessairement comme ça.
Non.
Parce que dans la vie matérielle, pour atteindre certains objectifs, il faut faire preuve d'austérité. Et parmi ces austérités-là, la maîtrise des sens est impliquée. On donne un exemple. Une mannequin, une femme mannequin, disons qu'elle a atteint une renommée internationale. Cette femme-là ne peut pas manger n'importe quoi, ne peut pas manger en n'importe quelle quantité. En fait, elle est sur la corde raide tout le temps, là. Même si ça paraît pas.
Ceci.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une différence entre les mannequins européennes et les mannequins de d'autres pays. Les mannequins européennes, c'est quasiment des squelettes ambulants, puis ça passe pour être beau. Et d'autres mannequins d'ailleurs, qui sont pas aussi amincis que ça. En tout cas, c'est
C'est pareil
mon
pour les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils vont s'astreindre à des rigueurs, à des austérités, tant de la nourriture que même se lever très tôt pour faire du sport. Mais en fait, ils se lèvent très tôt pour faire du sport, pour atteindre des records, pour battre des records. Mais il y a pas du tout de conscience divine dans rien que ce soit. Et ils se donnent un mal fou parce qu'ils veulent être champions, en fait. Ils veulent être champions, qu'on les reconnaisse comme des champions.
Exactement. Et ces austérités-là, on appelle ça comment? En sanskrit.
Tapasya dans la tête, mais je sais pas.
Mais c'est
Non.
justement, c'est ce mot-là, tapasya. Le mot tapa veut dire austérité.
Vérité.
Et asya veut dire de la personne. C'est une austérité volontaire de la personne. Et dans le service de dévotion, le tapasya est inséparable aussi du service de dévotion. Il n'y a pas de service de dévotion sans tapasya. Alors, dans le Srimad Bhagavatam, le Seigneur Krishna dit au Seigneur Brahma, il lui dit que le tapasya, c'est sa vie et son âme à Krishna. Alors, si on veut plaire à Krishna, faut faire preuve de tapasya. Mais pas artificiel. Pas artificiel. C'est juste le tapasya qui est nécessaire d'être fait dans le cadre du service de dévotion. Comme par exemple des jours de jeûne.
Se
C'est
lever
suffi.
tôt, tu l'as dit
Se
tout à l'heure,
lever
c'est
tôt.
important.
C'est, disons,
Ne
les
pas manger
tapasya.
les choses sans les avoir offertes à Krishna.
C'est ça. Ou comme c'est dit, le tapasya du verbe, C'est parler de Krishna, mais pas parler d'un paquet d'autres choses. Il y a une place pour tout. Et ça, c'est délimité, décrit dans la Bhagavad Gita.
Ouais.
Ouais. Voilà. Alors, est-ce que d'autres questions, commentaires? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci
à vous, à vous.
Hare Krishna.
Et puis,
on se voit samedi.
On se voit samedi. Samedi, prochain cours.
Si voilà. Dieu le veut, si Krishna le veut, mais je pense qu'il le voudra.
Moi aussi, j'espère.
Voilà. Mais rien n'est acquis, en fait. C'est ce que je me dis tout le temps. Donc, rien n'est acquis, mais on se donne les moyens de...
On fait comme si Krishna veut.
Voilà.
S'il veut autrement, ça c'est une autre histoire.
Voilà.
Mais on prend pour acquis que Krishna va vouloir.
Donc à samedi.
Voilà. À samedi.
À samedi.
Ça.
Allez Krishna.
Merci beaucoup. Allez Krishna. Allez
bon. Allez bon.
Allez bon.
Allez
bon. Allez bon. Allez Krishna. Jayo.
Allez Krishna.
Allez bon. Bon, ça ici. Voilà.